Radio Alliance Plus. Parole aux associations.
Bonjour à toutes et à tous, Didier au micro de Radio Alliance Plus. Eh bien, je suis en compagnie de trois personnes de l'association Welcome JRS. Alors, JRS, c'est quoi ? Jésuites Réfugiés Service. Alors, j'ai à ma gauche Hubert Emery, qui est coordinateur. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Elisabeth Lédier, qu'on a déjà rencontrée une fois, qui est famille d'accueil. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Didier, bonjour à tous.
Et puis Yves Kerbra, c'est ça ?
C'est ça,
qui
oui.
Qui est aussi, qui accueille des familles. Bonjour Yves.
Bonjour Didier et bonjour à tous les auditeurs.
Et auditrices.
Et auditrices, bien sûr.
Alors écoutez, aujourd'hui on va parler donc de l'accueil de familles de demandeurs d'asile. Voilà. Alors c'est un vaste programme. On va voir ensemble après comment on définit les demandeurs d'asile. Dans l'esprit du public, il y a beaucoup de notions un peu floues. Et vous-même, vous participez à l'accueil direct de ces familles, de ces demandeurs d'asile. Alors, Hubert, on peut peut-être parler un peu de l'historique de la création de cette association. Comment vous êtes constitué ?
Alors, JRS est né dans les années 80 à l'initiative de Pedro Arrupe, qui a été un des grands patrons des jésuites, à cause des boat people et de la crise humanitaire au Libéria. Et donc, il a commencé cette action qui s'est poursuivie dans plusieurs pays après et qui s'est installée en France en 2007 avec une première antenne, etc. Puis au début, c'était des cours de français pour apprendre le français aux demandeurs d'asile. Et puis, très vite, ça a débouché sur la question de l'accueil devant le nombre de gens qui étaient à la rue du fait de leur arrivée, ils ne connaissant pas les structures. Donc, il a fallu les accueillir à travers des réseaux de familles. Et donc, c'est le principe de JRS Welcome.
Donc, c'est né, si je comprends bien, en Afrique, avec des boat people, mais je pensais mais que non, les boat people étaient au Vietnam.
C'est les boat people au Vietnam, oui. Et la crise au Libéria.
Ah,
c'est deux
d'accord.
Choses différentes. Alors, on a oublié la crise du Libéria.
Expliquez-nous un peu la différence, parce que au départ, c'était l'accueil de boat people, donc des bateaux qui naviguaient comme ça, sans rien, et avec plein de,
voilà.
de
personnes
à bord.
Qui venaient du Vietnam.
Et ils arrivaient sur les côtes libyennes, libériennes.
Non, ils arrivaient dans les pays voisins, et puis ils étaient recueillis par Médecins du Monde, rappelez-vous, avec Kouchner.
Oui.
Et donc, après ça, ils étaient en camp. Et de temps en temps, les pays accueillaient 100, 200, 300, et puis il fallait les envoyer en France, etc. Donc JRS a commencé son action là, et en même temps, au Libéria, il y avait cette crise humanitaire, et donc là aussi, ils se sont installés pour s'occuper des personnes qui voulaient migrer et ne plus rester dans ce pays-là.
D'accord. Alors si je comprends bien, celui qui a créé cette organisation, ce jésuite, il était déjà en mission au Libéria, c'est ça ?
Il était en mission partout, parce que c'est le général des jésuites, puisqu'on parle de général.
Hein, ouais.
Et donc, il visite en permanence les communautés jésuites du monde entier. Et il a une vue globale sur la situation à travers ses réseaux jésuites, hein, à la fois de communautés jésuites et d'enseignement, puisqu'ils ont quand même un certain nombre de lycées renommés et connus un peu partout dans le monde. Et donc, voilà, ils ont vu que cette crise humanitaire ne ferait que s'amplifier et il fallait intervenir devant la carence des gouvernements aussi.
Alors, comment ça s'est développé en France depuis le Libéria, il y a eu une ramification
Petit à petit, c'est comme la Compagnie de Jésus quand même est très bien implantée en France, très, très rapidement, du moins dans les années 2000, la Compagnie a commencé à mettre en place des actions typiquement JRS, Jésuites Réfugiés Service, en accueillant les migrants pour des cours de français. Et puis pour une démarche surtout, parce que c'est une partie de la tâche de nos familles et de nous-mêmes, c'est de les aider dans leur démarche administrative. Parce que les démarches administratives, vous savez bien, en France, on est assez doué pour complexifier les choses à outrance.
Ah ouais, et donc, il y a beaucoup d'imprimés. Hein.
Voilà, c'est ça. Et puis, de démarches, il faut aller dans ce bureau, mais pas dans celui-là, etc. Voilà, et puis si vous êtes du moins un demandeur d'asile de tel genre et pas de tel autre genre, vous devez aller en préfecture ou à Paris, etc.
Alors, cette association qui était au départ africaine, qui est devenue internationale, à Paris, c'est l'association nationale pour la France, c'est ça ?
C'est ça.
Et il y en a une, donc, par pays ?
Il y a, du moins, par, dans un certain nombre de pays.
Bien sûr, oui.
Voilà, et donc...
Il y en a beaucoup en Europe ?
Je ne sais pas trop. Non. En Europe, je ne sais pas trop.
Et la France est assez importante, cette association.
Ah oui, parce qu'on regardait les chiffres tout à l'heure. JRS France, au niveau accueil de migrants dans les familles, c'est 4000 et quelques nuitées pour une année. Quoi. C'est quand même important. Il y a une quarantaine de structures JRS locales, ce qu'on appelle, comme nous, dans le Gard, il y a une structure JRS qui coordonne l'action des familles à Sauve, à Nîmes, à Alès et à
Chambord-Rigaud. On en parlera tout à l'heure au niveau gardois, mais comment déjà s'articule cette association avec d'autres ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à œuvrer dans ce domaine.
Dans l'accueil de migrants dans les familles.
Ah, c'est spécifique.
Du moins, on est un peu les seuls là-dessus. Hein. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres mais moi, je n'en ai pas entendu parler. Mais là, c'est quand même un engagement très particulier. Vous adhérez à JRS Welcome. Et on vous confie une personne demandeur d'asile. Pendant 4 semaines. Quoi. 4 semaines, elle va dormir chez vous,
dîner
avec vous,
etc.
Donc, il y a un vrai pari sur l'accueil dans les familles.
Justement, on en parlera tout à l'heure avec Isabelle et Yves sur les familles d'accueil. Alors, continuons sur ce côté association. Donc, on était sur Paris, national. Donc, vous êtes l'antenne du gardoise de cette association.
Oui. Tout à fait.
Et vous suivez les directives ou la politique qui est mise en place.
C'est très simple. Hein. C'est très simple. C'est l'accueil.
D'accord.
L'accueil et puis
inconditionnel, j'imagine.
Voilà. Une fois qu'on est adhérent, bien sûr, il y a toujours des arrangements pour tel ou tel qui a un problème, etc. On ne va pas le forcer à accueillir alors qu'il ne peut pas le faire à ce moment-là. Mais le deal est assez simple. Hein. Il s'agit d'accueillir une personne demandeur d'asile. Et la structure locale va l'accueillir de septembre à juin, grosso modo.
D'accord.
Pour ajouter, on a quand même un lien avec le national, parce qu'il y a des formations qui sont organisées entre les bénévoles, les familles.
C'est
pas vraiment pour être formé, mais c'est pour être plutôt informé. Ils appellent ça des formations, mais c'est plutôt être informé des demandeurs d'asile, du circuit, etc. C'est proposé, donc on a quand même un lien avec le national. Quand on est famille d'accueil, on peut avoir ce lien-là. Et puis, il y a des assemblées, l'Assemblée Générale où on est invité, bien sûr. Donc ça, c'est le national aussi. Et donc, il y a eu aussi récemment, c'était au mois de janvier, il y a eu une rencontre à Montpellier. Une rencontre régionale, donc il y avait de Toulouse jusqu'à Toulon, je pense, Nice, c'était tout le sud-est, quoi, donc tout le sud même, ça, c'est l'ouest.
Alors cette association, vous avez dit tout à l'heure, a été créée par un jésuite, mais j'imagine que c'est art religieux, non ?
C'est laïque, complètement. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand on dit jésuite réfugié service, souvent les gens se disent « Ah, vous n'accueillez que des demandeurs d'asile catholiques ». Non, non. Non, non, on n'accueille que des demandeurs d'asile musulmans, grosso modo.
Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est toute confession.
Oui, toute confession. On ne demande rien du tout aux gens. On leur demande simplement d'accepter cet échange, quoi, cet accueil dans les familles et d'apprendre un peu ce qu'est notre société à travers ces diverses familles.
Alors, on a vu l'historique, l'origine, maintenant... Comment vous travaillez matériellement ? Vous n'avez pas de locaux ?
Non.
C'est les familles qui reçoivent chez elles.
D'accord. Voilà, c'est ça,
on en parlera tout à l'heure. Et au niveau des bénévoles, c'est des bénévoles, il y a des salariés, comment ça se passe ?
Localement,
c'est structuré comment ?
Au niveau de la structure nationale, bien sûr, il y a des salariés qui sont chargés de la communication, de la formation, du contact avec les antennes locales. Nous avons un référent pour le Gard, en plus de notre structure locale, quoi. Et puis, localement, non, on n'a pas de salariés, c'est du bénévolat à 100%.
D'accord. Alors maintenant, bon, le nerf de la guerre, vous êtes financé comment? J'imagine qu'il faut... Alors, il faut des subsides
Pas forcément. Il y a, chaque famille va donner de son temps, oui, et de son argent à travers le fait d'accueillir, de laver le linge des migrants, les repas, etc. Donc ça, c'est pris en compte par les familles. Hein.
D'accord.
Et puis, après ça, le reste, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Je ne vois pas ce qu'on pourrait avoir.
D'accord.
De plus.
Vous avez des dons ou...
Non. Alors, il y a de temps en temps une action qui est menée par l'une ou l'autre partie des antennes locales pour avoir un petit fonds quand on accueille un migrant qui a plus d'aide financière de la part de l'État français.
D'accord.
Donc,
oui.
Voilà, pour lui donner un tout petit peu d'argent, mais ce n'est pas le principe. Les familles ne doivent pas donner d'argent à un migrant qu'elle accueille. Ce n'est pas compris dans le programme, quoi. C'est de l'accueil et du dialogue.
Alors parlons des bénévoles. On peut profiter de l'antenne pour faire un appel à bénévolat. Il faut être famille d'accueil, c'est ça?
C'est de devenir famille d'accueil.
Accueillir chez soi.
Accueillir chez soi pendant 4 à 6 semaines un migrant qui vient d'Afrique, d'Afghanistan, du Venezuela, d'Ukraine, voilà.
Très cosmopolite.
Oui. On ne demande ni la nationalité, ni la religion. D'accord. Simplement, on demande aux migrants d'accepter de jouer le jeu, de rentrer dans une structure familiale et de dialoguer avec cette structure familiale, cette famille d'accueil.
Juste quand on dit famille, ça, c'est aussi des personnes célibataires dans le groupe, puisque dans le pétale, il y a aussi des personnes célibataires. Alors, on dit famille, mais il y a des personnes célibataires aussi qui peuvent accueillir, bien sûr. Alors,
pour terminer cette première partie, Elisabeth, vous parlez de pétale. C'est quoi? C'est les équipes qui sont dispersées dans le Gard?
Voilà, c'est ça, on appelle ça
vous
des pétales.
Vous avez semé la marguerite.
Voilà. Alors, c'est sûr, je t'aime beaucoup.
Alors, dites-nous, ces pétales, ils se trouvent où dans le Gard?
Nîmes, Alès, oui. Chambourigaud, voilà. Et Sauve.
Voilà. C'est là où il y a également des familles d'accueil, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. Bon, mais il est temps maintenant de passer à la pause musicale et dans la deuxième partie, on abordera un peu plus précisément votre mode de fonctionnement et on parlera plus avec vous comment vous procédez en tant que famille d'accueil. Je vous propose d'écouter Hugo Frey, Les crayons de couleur. Alors, c'est un choix que vous avez fait. Alors, pourquoi? C'est Yves, Hubert qui nous en parle.
Je pense que ça résume bien, du moins, ce pourquoi on s'est engagé. C'est parce qu'on a découvert, au moins pour moi, des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées ailleurs et qui arrivent avec leur richesse et leur pauvreté, souvent très abîmés, très cassés par le voyage. On le citera peut-être tout à l'heure, quelques anecdotes vécues par les migrants qui se font caillasser, qui se font taper dessus, qui sont torturés, etc. etc. quoi.
Alors on écoute cette chanson, bon, pour nous on la connaît bien, pour les jeunes, écoutez bien les paroles,
voilà.
C'est intéressant, et on se retrouve après la pause musicale.
Un garçon est venu me voir tout à l'heure avec des crayons et du papier. Il m'a dit: je veux dessiner un homme en couleur, dis-moi comment le colorier. Je voudrais qu'il soit pareil que moi quand je serai grand, libre, très fort et comme je le veux. chez lui, avec son beau cahier sous le bras. Il a essayé de dessiner toute la nuit, mais il n'y arrivera pas.
Eh bien, nous reprenons cette émission. J'espère que ce morceau musical d'Hugo Frey, les crayons de couleur, vous a plu. Je vous rappelle que je suis en compagnie de Hubert, Elisabeth et Yves, qui sont membres de l'association Welcome JRS, Jésuites Réfugiés Service, tout un programme. Et nous allons rentrer un peu dans le cœur du sujet, justement, avec Elisabeth et Yves, qui sont famille d'accueil. Alors, une famille d'accueil, c'est quoi ? C'est Yves qui commence ?
Oui, pour nous...
parcours.
Ah, le parcours. Alors, c'est intéressant de voir un peu le parcours.
Vous en êtes venu ?
Voilà, comment j'en suis venu à devenir avec Elisabeth, famille d'accueil. Eh bien, tout simplement, dans le cadre de mon travail, j'organisais une semaine de sensibilisation aux migrants il y a quelques années dans un lycée-collège. Et donc, c'était moi qui étais responsable de l'organisation de cette semaine de sensibilisation auprès des collégiens et des lycéens.
Et on vous a donné ça comme ça,
ça faisait partie d'un programme lié à la pastorale scolaire.
D'accord.
Voilà. Et donc, je suis rentré dans... Alors, les migrants, au départ, je pense que je les voyais un petit peu de loin. Bien sûr, il y avait quand je voyais des reportages à la télé ou lisais des articles, voilà, ça me faisait quelque chose. Mais sans plus, c'est sur le moment. Et là, dans cette préparation de cette semaine de sensibilisation, j'ai pu découvrir différents documents et en même temps, j'ai pu rencontrer des migrants qui venaient partager leur expérience auprès des collégiens et des lycéens. Et en fait, quand cette sensibilisation, bien sûr, elle était adressée pour les jeunes, mais c'est moi qui ai été sensibilisé à ce drame humain et aussi à la richesse que l'on peut vivre d'accueillir des personnes venant de cultures et de milieux différents. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui s'est ouvert à travers les rencontres, les reportages, la discussion avec les jeunes qui sont quand même très... très ouvert. Et donc, voilà, ça a été le début, je veux dire, de ma sensibilisation.
Vous avez décidé à vous engager à ce moment-là.
Alors
pourquoi, dans cette association, vous voulez la trouver ?
Alors, bien sûr, mais en même temps, donc, Elisabeth portait, elle pourra s'exprimer après, ce même désir au fond d'elle. Et une fois, on en a parlé parce qu'il y avait une soirée de présentation de l'association Welcome. Et on s'est dit, pourquoi pas, on va aller voir. On a été ensemble et la proposition qui nous était faite, nous semblait bien cadrée, bien structurée, parce que c'était une association. Il y a des personnes qui sont tuteurs, c'est-à-dire qui vont accompagner dans les démarches administratives le jeune en demande d'asile. Et donc, pour nous, ça nous semblait quelque chose de possible, sachant que nous avions une chambre à disposition pour ce jeune. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir matériellement un endroit où ce jeune puisse vivre. On a accepté.
Alors Yves, ça c'est votre engagement, mais
ouais.
Vous êtes en couple avec Elisabeth,
ouais.
Il faut être d'accord sur les deux points. Alors Elisabeth, C'est Yves qui est venu vous en parler.
Non,
c'est
moi
pas
j'avais...
évident d'accueillir voilà. quelqu'un, un étranger, enfin, au sens étranger de tiers, on ne connaît pas, chez vous.
Moi, parallèlement, j'avais rencontré quelqu'un qui était famille d'accueil sur Montpellier et qui m'avait partagé son expérience. Et donc, du coup, c'était resté dans un coin de ma tête. Et quand, 6 mois après, donc voilà, j'ai eu connaissance de qui avait cette création sur Nîmes. Voilà, ben c'est là que du coup on en a parlé ensemble et avec Yves on s'est dit ben c'est le moment. On avait envie de faire quelque chose, on ne savait pas très bien comment et on s'est dit ben c'est un moyen, même si c'est quand même une goutte d'eau de se dire qu'on accueille une personne pendant 4-5 semaines à la maison. Voilà, c'est une petite chose. Ça se passe bien.
Alors, juste dire une petite anecdote, c'est-à-dire que pour notre premier accueil, le soir... La veille au soir donc, de ce premier accueil, personnellement, j'étais quand même un peu anxieux, un peu angoissé, stressé. De dire, mais attends, Elisabeth, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Ce gars, cette personne, on ne la connaît pas. Elle va venir habiter chez nous. Voilà, il y avait des appréhensions. Et puis en même temps,
c'est
on s'est
normal.
Dit... Oui, c'est normal. Et en même temps, moi, je trouve que c'est important aussi de pouvoir descendre en soi pour se dire, ben, c'est quand même ça que je veux. C'est quand même ça vers quoi je me sens appelé pour participer comme une petite goutte d'eau, une minuscule gouttelette à quelque chose de plus grand. Et donc voilà. Et le lendemain, avec l'accueil de ce jeune, eh bien, toutes ces peurs se sont dissipées et voilà, on était dedans et on était dedans avec lui dans cette rencontre.
Ce sont des jeunes... Il y a la barrière de la langue, non? Il parlait français?
Non, il y a la barrière. Le premier, il parlait que anglais. Ouais. C'était un Afghan, il parlait que anglais.
D'accord.
On n'avait pas encore la maîtrise des traducteurs sur téléphone comme on a maintenant.
Ah oui, c'est ça.
mais voilà, donc le premier, c'était vraiment du on baragouinait. Mais quand on voit la personne, voilà, avec son sourire, on ouvre la porte et on voit la personne qui a un grand sourire. Bah, toutes les peurs, elles fondent, quoi. C'est vraiment...
C'est pas évident, quand
et,
même.
Voilà, et la confiance, elle s'établit tout de suite, parce que, donc, à l'époque, maintenant, Yves est retraité, mais à l'époque, Yves travaillait, moi, je travaillais aussi. Donc, le matin, à 8h30, on partait de la maison.
Donc, vous le laissiez seul, chez vous?
Et donc, il n'y a pas de règle. Enfin, normalement, là, on peut le laisser partir la journée et lui dire, tu reviens ce soir. Mais ce lendemain-là, il pleuvait, en plus, on s'est dit, on peut pas le laisser dehors... Et on l'a laissé à la maison, on lui a laissé les clés et on lui dit voilà.
On a une sacrée confiance. Hein.
Elle est venue toute seule, vraiment. Alors que la veille, on était très anxieux, elle est venue toute seule. Et ça se fait à chaque fois, quoi. Ça se construit à chaque fois cette confiance envers ces.
Alors, cette personne, elle reste chez vous un temps déterminé. Comment ça fonctionne?
4 à 6 semaines, mais généralement 4 semaines. Ben, après ça, elle passe dans la famille suivante.
Ah, d'accord.
Voilà, et ainsi de suite.
Elle n'est pas laissée à la rue.
Non, elle n'est pas laissée à la rue, et surtout avec ma collègue Hélène de Rhône, avec qui on coordonne notre équipe locale, on essaye de préparer la sortie. C'est-à-dire de faire en sorte que, comme le demandeur d'asile doit passer auprès de l'OFPRA à Paris, pour obtenir un titre de séjour. Et puis, s'il est refusé, il peut faire appel à la Cour nationale des demandeurs d'asile pour une deuxième tentative. Donc, on l'aide à préparer cette rencontre à travers un travail qui se fait à Alès avec une personne qui l'aide à écrire son récit. Pourquoi il est parti, comment ça s'est passé quand il a traversé les pays, etc.
D'accord.
Pour éviter beaucoup le problème d'affabulation, le problème d'influence d'autres personnes qui lui disent « dis ça, ça ira mieux que si tu dis ça ». Voilà, d'être plus près de la vérité.
Revenons à Elisabeth et Yves, vous en avez accueilli beaucoup des personnes comme ça ou...
Alors, nous, on a commencé, du coup, l'année 2019-2020, donc c'était en janvier 2020.
Ah, déjà,
c'était juste avant le Covid, donc là, on a accueilli la sixième personne en janvier. Parce que nous, on a toujours gardé ce créneau entre janvier et février.
Alors, ce sont des célibataires, ils sont en couple, comment ça fonctionne? Il y a des enfants?
Non, c'est toujours des personnes seules. Célibataire, je ne sais pas, mais personne seule, on accueille une personne, voilà,
une personne
qui est demandeur d'asile. Ouais.
Et ça se passe bien? Vous n'avez jamais eu trop de pas de problème, je veux dire.
Alors, d'abord, je voudrais dire...
Il dîne avec vous, comment
oui.
ça se passe?
Oui, il dîne avec nous. On est vraiment, pour moi, c'est vraiment... on est dans une dynamique de rencontre. J'aime bien, alors peut-être que les auditeurs et auditrices voient cette émission, Voyage en Terre Inconnue. Je trouve que c'est une émission humaine formidable, où on est vraiment au niveau d'une rencontre humaine avec des gens très différents. Eh bien, je dis ça en plaisantant, mais pour moi, c'est Voyage en Terre Inconnue à la maison. Dans l'accueil de cette personne complète, parfois complètement autre. Et en même temps, voilà, il y a cet échange de cultures différentes. On reçoit beaucoup. J'ai reçu beaucoup de la part de toutes ces personnes accueillies.
Ouais, vous voulez dire qu'il y a un enrichissement personnel à ces accueils?
Oui, dans l'échange, on voyage beaucoup. Ils nous parlent de leur pays. Donc il y a eu l'Afghanistan, la Guinée, le Mali. Et donc le dernier, l'Ukraine. Voilà.
Vous
et donc,
voyagez pas mal, en fait.
Voilà, c'est ça, avec ces échanges.
Écoutez...
Sans consommer de carbone.
Voilà, c'est ça.
Elisabeth, Yves et puis Hubert, merci de vos témoignages. Je ne sais pas si ça suscitera des vocations parmi nos auditeurs et auditrices. Je vous rappelle que vous pouvez joindre l'association Welcome JRS au 07 54 57 26 15 ou par mail welcome.gar30@gmail.com. Tout est dit ?
Très bien.
Eh bien, merci à vous, et puis bon courage dans vos pérégrinations.
Merci Didier.
Merci Didier.
Merci à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.